Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bon, ça a l'air de tourner.
J'ai le droit de boire un peu en même temps et tout ça. Attends, je virerai ma cuillère pour que ça fasse bling bling.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des bruits d'ambiance.
Voilà, genre pas ça par exemple. J'ai pas fait exprès, mais...
Bon, moi je suis très stressée aussi parce que c'est la première interview que je fais.
C'est la première?
En solo, absolument.
Oh là là!
Chloé Volmerlo, bonjour!
Bonjour Clémence Bodoc.
Merci infiniment d'avoir accepté d'être la première invitée dans le podcast Les Impertinentes.
C'est très flippant, merci beaucoup Clémence de m'avoir proposé, je comprends toujours pas mais merci.
Justement, on va y revenir.
Cool!
Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Chloé?
Je suis photographe et je suis demi-scénariste, mais on en parlera après.
Comment tu es devenue photographe?
Par passion, mais vraiment par passion, pas par projet. C'est pour ça que je te dis ça comme ça. Je fais pas partie des gens, tu sais, qui disent « Ah, moi, mes parents, ils m'ont appris la photo quand j'étais petit et tout ça, et du coup, j'en ai toujours fait. » Moi, ça a commencé à m'intéresser quand j'étais en fin de collège, début de lycée, et notamment grâce au numérique, en fait. Donc, je fais pas partie non plus des photographes qui crachent sur le numérique. Et en gros, au lycée, j'étais en internat, et j'étais dans un internat où on n'avait pas beaucoup le droit de sortir et où c'était pas hyper fun. C'était pas hyper joli non plus. Enfin, c'était pas terrible.
Bah, tu viens des Vosges, je peux le dire.
Ouais, voilà. Donc, c'était un internat en Meurthe-et-Moselle. Donc, c'était déjà un upgrade par rapport aux Vosges. Mais c'était pas ouf. Bon, et surtout, on a... Ouais.
Je me moque, mais je viens de Moselle.
Je sais, hein, je sais très bien. Je
on
sais
est
très...
de la même région. Voilà. Voilà. Mais c'est pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent.
Des enfants de la pluie.
Voilà, on ne stigmatise pas les régions de France. On en vient, donc
à
on en
part parle. Les Vosges. On peut stigmatiser les Vosges, quand même. mais ouais, et vraiment, on n'avait pas beaucoup le droit de sortir dans cet internat, quoi. Et du coup, j'avais l'appareil photo numérique de mes parents qui était vraiment merdique et j'ai commencé un peu à le piquer tous les dimanches soirs quand je rentrais à l'internat. Tiens, je vais emporter l'appareil photo. Et j'ai commencé à faire des photos de tout ce qui m'entourait, dont surtout mes copines. Et en fait, j'ai découvert, mais vraiment d'un coup, que ça leur faisait du bien et qu'elles se trouvaient belles sur mes photos. Et que c'était un truc qui leur apportait vraiment quelque chose. Et j'aimais bien l'acte de prendre en photo, enfin, il y a un truc quasiment méditatif. Alors même quand t'es dans le speed, en fait, t'as un truc assez méditatif dans le fait de voir une image par ce prisme-là, en fait. Et j'ai décidé de continuer parce que vraiment, il y avait ce côté où c'est génial de te rendre compte que tu fais du bien aux gens à travers un truc aussi simple, quoi. Et c'est hyper flatteur pour l'ego, en plus.
Mais justement, tu dis que tes amis se trouvaient belles quand tu les prenais en photo, mais tu faisais quoi? Tu les retouchais? Tu gommais les... gommais les défauts?
Non, pas spécialement, justement. C'est pour ça que j'étais étonnée. C'est que pour moi, c'était leur tête normale, en fait. Ensuite, je trouvais que c'était des photos où elles se ressemblaient. Ça, c'était vrai. Mais j'avais pas l'impression de les avoir particulièrement magnifiées, quoi. Pour moi, c'était leur tête normale. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais hyper étonnée qu'elles ressentent ça. Et à côté, quand j'avais personne sous la main, je faisais plein d'autoportraits, avec plein d'expérimentations cheloues, avec des maquillages tout à fait contestables et tout ça. Et là, par contre, il y avait un peu plus de transformation, mais c'est un autre aspect de la photo qui est intéressant aussi, quoi.
Elle se trouvait belle à travers ton regard?
Je sais pas. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Oui, j'imagine qu'à posteriori, on peut l'interpréter comme ça, mais moi, sur le moment, c'était surtout... C'est difficile de répondre à cette question. J'avais pas l'impression de les regarder d'une manière particulière. J'avais l'impression d'avoir juste fait une photo, d'avoir juste déclenché. Et visiblement, pour elle, il y avait une valeur ajoutée par rapport à ce qu'aurait déclenché quelqu'un d'autre, en fait. Mais je me l'explique toujours pas aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question. J'imagine que le regard que tu portes sur les gens, il compte dans ce genre de cas, mais il compte pour être attentif et consciencieux, en fait.
Bah, je trouve que ça se voit de plus en plus avec l'avènement d'Instagram, Moi, c'est mon entrée dans le monde de la photographie, parce qu'avant ça, j'allais très très peu voir des books de photographes, à part des photos de mariage. Quand tu vas au mariage des gens, c'était pas du tout mon monde. Et Instagram m'a fait découvrir la photo, le dessin, enfin tous ces artistes qui utilisent ce réseau social comme vitrine. Et c'est vrai que j'ai pu voir des styles de photos extrêmement différents et que je comprends beaucoup mieux la particularité, le côté artistique qu'il y a du métier, alors qu'avant j'avais dessus un regard très technique, tu sais. C'est ouais, oui, tu sais faire marcher la machine et tu sais faire en sorte que la machine fasse ce pour quoi elle est douée.
Ouais.
Mais en fait, pas du tout. T'es une artiste.
Bah, faut qu'on. Mais l'autre côté, la question de l'artiste, on en parlera après.
D'accord.
Mais moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre que mon métier, c'était. Enfin, que ce qui marchait dans mon métier, dans ma façon de faire mon métier, c'était pas que effectivement savoir composer une belle photo et savoir faire les bons réglages, ce qui est déjà chaud en soi en fait, hein. C'est déjà un bon boulot, mais ce que j'ai compris en premier, c'est que en fait une grosse partie du taf, c'est ce que tu donnes aux gens et du coup qui va se refléter sur eux et les mettre dans le bon état d'esprit. Bon, je dis ça parce que je fais pas de photos de paysage aussi, donc je connais pas les problématiques des photos de paysage.
La météo.
Oui, entre autres. Mais ouais, donc il y a ça, il y a ce que tu donnes aux gens et qui va les mettre dans un certain état d'esprit et tout, parce qu'en fait, neurones miroirs, tout ça, toi-même tu sais, les gens en face de toi, ils vont réagir par rapport à ce que toi tu leur transmets, quoi. Et c'est pour ça que c'est épuisant de faire des portraits. Tu peux te dire, vas-y, la meuf, elle a passé une demi-heure avec un auteur de BD, parce que je fais beaucoup d'auteurs de BD, elle a passé une demi-heure avec un auteur, elle a épuisé, vas-y, le taf de flemmarde. Mais en fait, c'est parce que pendant une demi-heure, il y a des trucs qui ont été complètement invisibles, mais qui se sont passés, quoi. Et des espèces d'ondes que j'envoie jusqu'à ce que la personne soit bien. Et parfois ça marche pas. Et dans ces cas-là, je suis épuisée et je suis triste et je déprime. Mais souvent ça marche et ça c'est pas mal. Donc ça, j'ai mis vraiment du temps à le comprendre et à comprendre que tout le monde le faisait pas. Et là-dessus, c'est vraiment. Moi, je dis en général qu'il y a les photographes qui donnent et ceux qui prennent. Et ça me met vachement en colère qu'il y ait des photographes qui prennent. C'est les photographes qui aiment bien, tu vois, jouer sur la vulnérabilité, jouer sur. L'inconfort des gens pour sortir une image qui est intéressante en soi, mais pour moi, c'est oublier que t'as des vrais gens en face et que l'image de soi, c'est tellement fragile, quoi. Enfin, moi, je me vois pas faire quelque chose à quelqu'un que je voudrais pas qu'on me fasse, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'en tant que photographe, t'as aussi un pouvoir de faire que les gens se sentent bien. Et du coup, je trouve ça plus intéressant d'être du côté des photographes qui donnent. Voilà, mais bon, je fais pas les mêmes images, du coup. Enfin, tu vois, c'est ce qui fait que a priori, j'irai jamais bosser chez Libé pour faire des portraits de gens célèbres, parce que moi, je vais sortir quelque chose de consensuel, parce que c'est ça que j'ai envie de leur donner, quoi. Et ça marche pas en presse, par exemple. Et le deuxième truc que j'ai compris, et ça, je l'ai compris hyper récemment, et c'est des mariés qui ont mis le doigt dessus, et ça m'a... J'ai un peu réinventé l'eau chaude quand j'ai compris ça. En fait, dans le petit mot qu'ils ont mis sur mon site après le mariage, ils ont dit « Chloé va vous faire vivre des moments ». Et que vous auriez pas vécu sinon, blablabla, etc. Mais c'était vraiment ça, en fait. C'était l'importance de fabriquer des moments qui sont authentiques, en fait, mais de les provoquer et d'amener les gens qui posent à les vivre. Et ça, je trouve ça fascinant, de dire qu'en fait, t'as cette empreinte-là, quoi.
Alors, c'est vrai que tu fais beaucoup de photos de mariage et que je te vois les poster régulièrement sur Instagram avec des légendes absolument magnifiques.
Oh.
Tu me redonnes foi en l'amour avec cette série que je trouve effectivement très belle. Et alors que c'est vrai que j'avais une image des photos de mariage extrêmement classique, extrêmement cliché.
Comme tout le monde.
Bah, voilà.
Moi, y compris, hein, quand j'ai commencé, moi aussi, en fait.
Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo de mariage ?
Ça va être une longue réponse, je suis désolée.
Bah, vas-y.
On attend. Bon, alors déjà, enfin, c'est pas la majeure partie de mon activité. Hein. C'est juste que c'est plus intéressant si je montre ça que si je montre des photos d'un événement, d'un cocktail, d'un truc comme ça, quoi. Mais c'est peut-être la moitié de mon activité, voire moins. C'est pas la majeure partie. Mais c'est là aussi où j'ai le plus justement de latitude créative et de conditions de reportage. Donc c'est aussi pour ça que je les montre. C'est que c'est ce que je fais, c'est vachement personnel, quoi. J'ai commencé pour les sous, comme tous les photographes de mariage, et je pense que c'est la pire raison de commencer, en fait. Mais je savais pas qu'à l'époque, ça pouvait être chouette. Et je savais que, par contre, j'avais besoin de sous, et c'était mes débuts. Je travaillais déjà comme photographe, ça faisait un an et demi à peu près que je m'étais lancée. Et je me suis dit les sous, mais je me suis aussi dit je veux vraiment le penser comme un reportage. Enfin, vraiment des techniques de reportage et de presse et de... t'es dans l'événement et tu le documentes avec toute sa rugosité aussi, justement. Et pas trop... c'était déjà pas trop... on se met devant des géraniums et on fait des grands sourires. Je déteste les géraniums. S'il y a des géraniums qui nous écoutent. Et donc, j'y suis allée comme ça, mais un petit peu en me disant, bon, bah voilà, ça me fera des sous, c'est déjà ça. Et ça s'est pas très bien passé humainement. Voire vraiment pas. Je suis tombée sur ce que chez les photographes on appelle la bridezilla. Ah. Qui sont les mariées terrifiantes. Et voilà, donc j'ai eu des problèmes de harcèlement, tout ça, c'était génial. Mais ça m'a blindée à fond. Et en fait, le truc qui est resté, c'est que j'ai adoré l'exercice. Et l'exigence de l'exercice, en fait. Parce que t'es obligée d'être ultra polyvalente. Parce qu'en fait, t'as plein de conditions qui vont pas t'arranger. Il faut quand même que tu sortes tes images. Et
t'as pas le droit à l'erreur. Parce que
t'as
c'est...
rien de droit de louper, mais rien. Mais tout est un moment clé, quoi. C'est vraiment abusé, quoi. C'est toujours quand tu poses ton appareil qu'il se passe un truc et que tu dois courir. Voilà.
Mais donc t'es ce personnage dans les films qui passe 8 heures debout avec son...
Mais 8 heures, c'est que dalle.
Ah, pardon.
8 heures, c'est rien. J'ai fait des prestats de 19 heures d'affilée.
Waouh.
Ouais. Non, non, c'est vraiment un marathon. Par contre, je suis rincée après. Je sais plus comment je m'appelle quand je finis. Mais ouais, c'est ultra exigeant. Et en fait, si tu le fais bien... Pour moi, là, maintenant, c'est ce qu'il y a de plus dur en photo, quoi. Et c'est ça qui m'a plu, au début. Et ensuite... Donc, au début, c'était ça. C'était cet exercice méga exigeant, méga... qui pardonne rien, en fait. Et ensuite, j'ai rencontré des gens sympas qui faisaient des mariages sympas et je me suis dit, ah, OK, donc, en fait, ça peut vraiment me plaire complètement et pas que comme photographe concentré sur son petit truc à elle, quoi. Et maintenant, la majorité de mes clients en mariage, c'est des gens avec qui je pourrais être pote, en fait. Et ça, c'est trop important. Et du coup, tu es plus en empathie, tu bosses mieux. Et c'est pour ça que ça m'accroche, quoi.
Et c'est comme ça que tu arrives à faire des shootings originaux et à sortir des sentiers battus, des photos de mariage hyper classiques.
Ben, on est nombreux maintenant à sortir des sentiers battus. C'est plus facile aussi, quoi. Tu vois, tu as une imagerie qui existe. Et du coup, tu as les clients ont un regard vachement plus éduqué à tout ça. Donc, c'est vachement plus facile. Mais surtout, je sais déjà qu'a priori, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà ces images-là en tête et que ça va leur parler et qu'ils vont être OK pour y aller. Parce qu'en fait, je ne les fais pas toutes seules, mes images. Il faut que ça soit eux qui me suivent et qui proposent des trucs aussi et qui aient envie. Et je peux pas... Parfois, j'ai des messages de gens qui me disent « Ah, nous, on est très timides, on est très renfermés, on n'aime pas montrer nos émotions, on n'aime pas se toucher. » Et on voudrait les photos que tu fais sur ton site et on n'aime pas trop rigoler non plus. Et t'es là, bah ça va être chaud en fait. En fait là c'est compliqué, tu vois, je fais pas des miracles non plus quoi. C'est juste que ces images là, normalement elles attirent des gens qui sont capables aussi de sortir ces trucs là et on peut construire ensemble.
Je voudrais revenir juste à ton parcours. Qu'est-ce que t'as fait comme études pour devenir photographe ?
J'ai pas fait d'études pour devenir photographe. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé, par contre. Enfin...
Je voudrais qu'on en parle, parce que, voilà, je l'ai dit un peu sur le ton de la rigolade, parce que, en vrai, spoiler alert, on se connaît dans la vie, Chloé et moi.
Non, qui êtes-vous ? Arrêtez de me suivre, c'est gênant, on est chez moi, on est sur mon canapé, j'aimerais que vous sortiez.
Donc, on se connaît un peu, je connais un peu ton parcours. Et c'est ce que j'admire dans ton parcours, c'est ce côté autodidacte, parce que, tu viens pas d'un milieu artiste-photographe.
Nope.
T'as pas fait les écoles prestigieuses que je ne connais même pas d'ailleurs pour devenir artiste photographe. Et aujourd'hui, enfin, moi je te vois être un nom dans la photographie et être, connu, recommandé. Enfin, t'es pas un inconnu sur la place parisienne. Et moi je trouverais intéressant qu'on s'arrête un peu sur ton parcours et sur, enfin, par quoi t'es passé pour arriver jusque là, pour que d'autres puissent s'en inspirer aussi et se dire qu'en fait c'est possible. Mais est-ce que tu dirais ça aujourd'hui ? Est-ce que tu dis c'est possible ou tu dis j'ai eu beaucoup de chance ?
Non, les deux en fait. Mais c'est super possible. Bon, ensuite, je fais juste une parenthèse sur mon syndrome de l'imposteur. Je le dis une fois pour toutes. Moi, je pense pas du tout être un nom de la photographie. Je pense pas du tout être un peu connue sur la place parisienne. Et moi, je sais pas ce que je fais là, mais je réponds à tes questions quand même. Mais voilà, parenthèse finie, mais elle vaut pour tout le reste de l'interview, a priori. Alors, donc, je pense que c'est possible si on travaille beaucoup. Mais en fait, comme beaucoup de trucs, quoi. Si on travaille beaucoup et qu'on a vraiment envie, c'est méga possible et méga facile, presque.
Mais comment tu sais que ton travail va payer ? Parce que c'est ça qui m'arrête, et je pense qu'il arrête beaucoup de gens quand tu te lances dans un truc, c'est est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps parce que mes chances d'y arriver, même si je bosse, sont extrêmement limitées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que tu as trouvé la force et la motivation, outre le côté, tu étais dans un internat au fin fond de la Meurthe-et-Moselle et à 15 ans, à 17 ans, c'était un hobby. Mm-hmm. Ça, je l'entends complètement. Mais comment tu passes de c'était un hobby à ça va devenir ton activité principale, tu vas gagner ta vie avec ça, mais tu vas te faire suffisamment confiance pour te dire que tu vas gagner ta vie avec ça.
Alors moi, j'ai jamais eu à prendre la décision. C'est pour ça que je vais te repartir sur mon parcours, mais en fait, c'est facile, j'ai jamais eu à prendre la décision. Et puis la photo, il y a ce truc aussi où... Enfin, moi, j'ai touché à pas mal d'art parce que tout m'intéressait, en fait. Quand j'étais ado, j'étais vraiment bouillonnante sur le sujet. Mais en fait, il y a des choses que j'ai pas continuées parce que vraiment, malgré tous les efforts du monde, j'étais une merde, quoi. C'est pas grave, parce que ça m'amusait, mais vraiment, c'était pas possible. Mais la photo, elle a ce côté aussi où, justement, tu vois, t'as l'aspect technique dont tu parlais au début. Alors, effectivement, si t'es incapable de voir une composition, si t'as zéro sensibilité à la lumière et tout, ça va être compliqué. Mais à partir du moment où t'es capable, toi, de discerner ce qui est une bonne photo ou une mauvaise photo chez les autres, la technique va t'aider... Comment dire ça ? T'as un aspect technique qui fait que tout ne dépend pas de ton talent pur.
Ok.
Et c'est pour ça que le travail aussi a une part hyper forte, c'est que la lumière, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se maîtrise. Si t'as zéro sensibilité au truc à la base, t'es mal barré, mais t'as une évolution forte qui est possible, quoi. Okay.
Donc, pour reprendre, ou plutôt pour voir si j'ai bien compris ce que tu me dis, c'est en travaillant la partie technique que tu te rends compte que ton travail paye parce que tu progresses.
Et exactement.
C'est parce que c'est une passion, c'est un drive, c'est une motivation qui est plus profonde, qu'en fait, tu t'en lasses pas et que tu continues à vouloir t'investir de plus en plus dedans.
Ouais, moi de mon côté, ce qui a fait que j'ai pas lâché la photo jamais, c'est que c'est que l'acte de faire des photos, quel que soit le truc que je fais en photo, me fait du bien. J'ai une sensation physique quand je compose une image, que je sens que les éléments s'approchent, ou que je sens qu'il va se passer quelque chose aussi, parce que c'est un truc que tu développes au bout d'un moment. Par exemple, en reportage, tu sens qu'il va se passer un truc à tel endroit et tu y vas et il se passe un truc et c'est tellement cool, c'est hyper addictif. Et sur mon parcours, ça s'est passé. Donc ouais, j'ai fait pas mal de photos au lycée. J'avais aussi un blog, j'écrivais en même temps et puis j'avais le temps aussi d'expérimenter beaucoup, beaucoup et de me rendre compte que ça me plaisait, que je progressais, mais pas tant en fait. Hein. Au lycée, c'était pas ouf, mais je progressais quand même. Et après, je suis partie en prépa littéraire parce que j'étais du côté des premières de classe. Donc, on m'a dit, il faut que tu ailles faire ta prépa. Et après, tu feras normal sup. Et ensuite, tu seras prof de fac.
Oui, comme tout le monde.
Ouais, voilà. C'est ça ta vie. Et enfin, je voulais être comédienne à l'époque. Mais bon, je le disais pas trop fort parce que c'était pas censé être ça ma vie.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde aussi, ouais, grave. Mais j'étais en lycée théâtre et tout. J'étais sérieuse sur le sujet. Mais je pense que j'étais pas une excellente comédienne non plus. Donc, bref, c'est pas très grave. Et donc, je suis allée en prépa, j'ai continué à faire des photos en prépa et j'ai continué mon blog aussi. Et à ce moment-là, il s'est passé une première rencontre qui, je pense, a été ultra déterminante. Alors, pour me rassurer, je me dis que ça aurait pu être une autre. Enfin, ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'était cool. J'étais hyper fan de BD et je suivais les blogs BD parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc, je suivais les blogs BD à fond. Et il y avait un festival qui s'appelait le Festiblog, organisé par quelqu'un qui s'appelle Yannick Lejeune. Et je l'ai contacté en 2007, je crois, en lui disant... donc j'avais 19 ans. En lui disant, mais moi j'aime trop cet univers-là et tout. Et c'est quand même des auteurs de BD qui viennent dédicacer gratos pendant un week-end. Moi, je voudrais leur faire une photo à chacun gratuitement aussi, qu'eux, ils repartent avec quelque chose, parce que je savais déjà que mes portraits, en général, ils faisaient plaisir aux gens. Et puis aussi, tout simplement, pour cette curiosité de qui sont les gens derrière les blogs et tout ça. Et j'ai commencé comme ça, et en fait, mes portraits ont vachement plu. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des clients en photo, en fait. Dont ce fameux Yannick Lejeune, dans son autre activité, parce que organisateur du Festiblog, c'est pas un métier. Et en fait, voilà, il y a des gens qui se sont mis à me dire, si on te donne des sous, est-ce que tu peux faire nos photos ? Et c'est comme ça qu'on devient professionnel, je crois. Et moi, je faisais encore mes études, donc ça, ça a vraiment décollé en fin de cagne, donc en fin de prépa. Évidemment, j'ai pas eu le concours pour l'ENS, mais ça m'allait, honnêtement, ça m'allait très bien parce que la prépa, ça s'est pas très bien passé. C'était une prépa du quartier latin, les fameuses qui sont réputées comme hyper cruelles et tout, et en fait, c'était le cas. Et je suis passée de première de classe à personne à qui on dit qu'elle a une calamité. voilà. Et avec une classe, je pense que j'ai pas eu de chance, mais c'était assez dur, quoi. Ça s'est vraiment beaucoup tiré dans les pattes et j'ai vécu un mépris de classe que je pensais pas vivre un jour. C'était vachement intéressant. Je digresse à mort.
Mais pas du tout. Alors vraiment, moi je suis en train de ne pas t'interrompre car tout ceci pour l'instant est très cohérent et sur la même ligne.
Bon, je viens d'un contexte privilégié quand même. Et ça, je pense que c'est quand même une grosse donnée pour te dire « Tiens, on me donne de l'argent pour faire des photos, bah, du coup je vais faire des photos. » C'est plus facile quand tu sais que papa et maman derrière, ça va aller quoi. Si t'as un coup dur, ils seront là. Et voilà. Donc je suis fille de médecin de toute petite ville des Vosges. Mais j'ai quand même ce contexte-là où j'ai grandi en étant dans un pays qui est quand même assez sinistré socialement. Donc j'étais la bourge de service. Et je suis arrivée en prépa et j'étais la prolo de service. C'était assez impressionnant, quoi. J'étais avec des enfants de secrétaire d'État, de tout ça. Enfin, qui avaient grandi à Paris, qui avaient lu du Schopenhauer à 13 ans. Et moi, je savais rien. Et j'avais pas les codes vestimentaires, j'avais pas les codes culturel, j'avais rien, quoi. Donc ça a été 2 ans qui ont été très très compliqués et où on me vendait des histoires d'égalité des chances et en fait c'était pas le cas, je trouve. C'est pas pour ça qu'avec le même background j'aurais intégré l'ENS, je pense pas, mais j'en parle parce que je trouve que c'est des années où on m'a menti sur beaucoup de choses en fait avant que j'y aille. Et j'étais assez solide sur le côté... C'est pas la vie, c'est pas des vérités absolues et moi je ferai mon chemin. Enfin, j'étais en flip, hein, mais j'étais quand même solide sur le sujet. Mais je pense que ça peut détruire des gens qui y croient un peu plus et j'en ai vu pas mal autour de moi qui étaient persuadés que la vie c'est ça et que si on te dit à ton devoir d'histoire, t'as 3 sur 20 et t'es mauvais en fait et t'es une honte pour la culture française ou je sais pas quoi. En fait, t'as des gens qui y croient et ça m'a un peu dégoûtée des études académiques au passage. Ça a un peu été la fin de c'est super d'être une première de classe et. J'ai des bonnes notes, ça fait plaisir à mes parents, ça m'a un peu dégoûté de ça. C'est peut-être pour ça que j'ai digressé.
Alors, c'est pas du tout une digression. Tout à l'heure, t'as fait une parenthèse sur ta légitimité ou pas à être dans ce podcast, donc je vais faire ma parenthèse. Tout ce que tu viens de raconter, je trouve ça fascinant parce que moi, de l'extérieur, je te vois comme ton parcours de photographe est difficile à reproduire parce que j'ai l'impression que c'est un métier dans lequel il faut avoir les codes, il faut avoir au départ de l'aide. Enfin, j'ai cette image extérieure d'inaccessibilité, alors que le parcours que tu décris de littéraire, prépa, ENS, etc., la méritocratie républicaine, bah, j'ai eu les mêmes comptes de chèques quand j'étais petite, donc j'y crois aussi. Et pour moi, ça a marché. C'est-à-dire que moi, je suis allée à Sciences Po en venant de la campagne, la même campagne que toi environ. Et donc, le parcours que toi, tu décris comme étant un mensonge, et finalement, on n'a pas les codes, on nous fait croire que c'est possible d'y arriver, alors que bon, quand même, la route est pavée pour les autres. Moi, c'est l'image que j'ai de réussir à vivre d'une profession artistique. Donc c'est hyper intéressant, en fait, que tu me présentes un ressenti exactement opposé.
Ouais, c'est marrant. Ouais, parce que je suis vraiment convaincue de ce que je dis sur la prépa, mais par contre, je pense que j'ai des copines qui, par contre, ont fait des prépas dans d'autres grandes villes et pour lesquelles ça s'est pas du tout passé de la même façon aussi. Je pense que t'as aussi le microcosme des prépas quartier latin qui est particulièrement hardcore à ce sujet-là, quoi.
Oui, comme t'as dans d'autres villes aussi, les microcosmes de la haute bourgeoisie de chaque ville.
Oui.
Enfin, en fait, moi, ce que je trouve intéressant avec notre discussion, c'est que c'est pas fermé par défaut dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de se dire que c'est possible de réussir uniquement par la méritocratie républicaine parce qu'en fait, bah, ça dépend, c'est pas forcément vrai.
Ouais.
Et de se dire que c'est pas possible de réussir en autodidacte ou dans des professions qui ont l'air trustées par les gens qui connaissent, qui ont les codes et qui se les passent de père en fils et de mère en fille, parce que c'est pas forcément vrai non plus.
Ouais.
C'est juste, ça n'existe pas le cheat code de la vie où ça tombe tout cuit dans le bec et c'est facile.
Ouais.
Et en fait, si t'es fille de et tout ton cuit dans le bec, en fait tu vas passer ta vie à travailler pour avoir la légitimité du travail que t'as. Enfin,
ouais,
je pense que
fou, ouais.
Personne ne gagne à ce jeu, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quand je te demande comment t'as fait, ta première réponse c'est bah j'ai bossé. Bah, je pense que c'est la réponse que 100% des invités donneront dans ce podcast. Je voudrais pas m'avancer, mais bon, ça va souvent être ça va souvent être par le travail.
Ouais, il y a j'ai bossé, j'avais envie.
Et par rapport à tes parents, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule entre oui, Chloé fait de la photo, c'est sa passion, ça l'amuse, et notre fille est photographe.
Ça a mis ultra longtemps.
C'est vrai ?
Ouais, ça a mis vraiment longtemps. Et je pense que le point de bascule, je suis pas certaine, hein, mais mon grand frère qui a 9 ans de plus que moi s'est marié. Donc en plus, moi, je suis la petite dernière. Je suis la seule fille et je suis la dernière. Donc autrement dit, quand je dis un truc, tout le monde rigole. En général, quoi que je dise, c'est assez pénible. Et donc mon frère qui habitait aux États-Unis à ce moment-là s'est marié en France. Et quand il préparait le mariage, je lui ai dit, écoute, t'arriveras jamais à trouver des bons photographes à distance comme ça, les rencontrer, avoir... Enfin, je lui ai dit, moi, je t'offre les photos de ton mariage, en fait, je vais les faire, parce que comme ça, je sais que ça sera bien fait.
Bah, c'est un beau cadeau que tu lui fais.
Ouais, mais il l'a pas pris comme ça au début, c'est un peu... ça a remué pas mal de trucs dans ma famille, où on s'est dit... Enfin, les gens m'ont trouvé chiante, en fait. Mais j'ai tenu bon. Et en fait, j'ai fait les photos du mariage, et visiblement, ils ont tous été assez étonnés. Et en fait, c'est le jour où j'ai eu ma légitimité... Mais c'était en 2012. Je suis photographe depuis 2008. Enfin, je suis pro depuis 2008, quoi.
Je pense que c'est une histoire qui fera écho auprès de beaucoup de personnes. Même si ça reste vraiment surprenant de l'entendre raconter. C'est-à-dire que tu arrives plus facilement à gagner ta vie en étant photographe qu'à avoir la légitimité auprès de tes proches en étant photographe.
Oui, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai ce rôle de petite dernière... Et puis que ça semblait si tracé, ce côté, t'es première de classe, t'intègres très prépa dans le quartier latin, c'est bon normalement. T'es l'enfant pour qui on s'inquiète pas. Et en fait, bah non.
T'es l'artiste.
Oui, je suis la personne qui fait n'importe quoi et on dit mais qu'est-ce qu'elle fout ? Alors qu'en fait, je suis hyper carrée, je suis hyper bosseuse et tout, mais ouais, je pense que c'est pas rassurant. Et puis en fait, il y a eu deux trucs sur le mariage. Il y a eu mes images en tant que telles, mais il y a eu aussi le fait que ça demande d'être ultra organisée parce que t'es face à des gens qui se marient pour la première fois et qui sont flippés. Ou qui savent juste pas organiser et donc tu t'en occupes en partie et je pense que ça les a bluffés aussi de voir que j'avais ma casquette de personne sérieuse qui fait des plannings.
On va changer de partie dans cette interview et juste avant ça je voulais boucler un truc parce que peut-être que j'ai donné l'impression tout à l'heure que je me moquais des parcours, tu sais, quand on disait comme tout le monde, quand on parlait de prépa, d'études littéraires, d'aimer le théâtre, de vouloir être comédienne, etc. En fait, ce que je voulais souligner avec cette partie, c'est le côté on a peu de modèles sous les yeux quand on vient de la campagne. Enfin, de toute façon, peu importe l'endroit d'où tu viens, je pense qu'on a peu de modèles sous les yeux, peu de modèles de femmes sous les yeux. Peu de diversité dans les modèles qu'on nous présente de parcours. Effectivement, alors il y a le cliché de les petites filles veulent être hôtesses de l'air, mais je pense que c'est même pas vrai parce que t'es même pas tellement confrontée à des hôtesses de l'air dans la vie. Mais par contre, prof, comédienne, serveuse, on est vraiment sur quelques métiers bien identifiés. Et encore une fois, selon ton éducation, ben oui, toi t'es fille de médecin, moi je suis fille d'éducation nationale et. Mon père est devenu cadre dans une entreprise. Forcément, moi, on m'a plutôt propulsée vers prof que vers serveuse. Alors que mais c'est juste sur la pauvreté des modèles et le fait que quand je suis arrivée en disant à 8 ans que je voulais être comédienne, on m'a dit c'est pas un métier.
Bah ouais, non, mais complètement.
D'accord.
Mais c'est pareil sur photographe. J'aurais annoncé que je voulais être photographe, c'était mort. Et je veux dire, ma famille, ils ont mis hyper longtemps à comprendre que je gagnais ma vie en fait et que vraiment ça va. Mais la plupart des gens, en fait, c'est hyper chiant. Tu vois, par exemple, quand je shoote un mariage, j'ai un bingo des questions à la con dans la tête. Donc, et dans les questions à la con, il y a « Mais vous êtes photographe ?» Et attention, s'il y en a plusieurs à la suite, ça s'enchaîne. « Mais vous êtes photographe ?» Oui. « Mais vous êtes une copine des mariés ?» Non. « Mais vous êtes photographe de la journée ?» Oui. « Mais vous êtes photographe professionnel ?» Oui. « Mais c'est votre métier ?» Mais oui. Et est-ce que vous en vivez ? Oui. Mais est-ce que ça va ? Oui. Mais parce que c'est difficile, vous êtes nombreux, non ? Oui. Et tu sens que quand les gens repartent, ils sont là, ouais, bon, elle m'a mitonné parce qu'elle voulait pas dire qu'elle crève la dalle, quoi. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, dans la tête de tout le monde, photographe, c'est pas un métier, quoi. Et alors, sauf si à la limite, t'as la boutique photo, tu vends des péloches, tu fais des photos sur un fond moche, et puis voilà quoi. Mais dans la tête des gens, c'est pas un métier de toute façon. On n'a pas parlé du scénario et de l'écriture, mais je sais pas comment ça s'intègre.
Comment ça s'intègre dans ta vie en fait ?
Tu écris depuis que tu es toute petite. Alors, c'était quoi le déclic pour te dire je peux être publiée ? Je veux écrire pour être publiée ?
Le déclic, c'est mon amoureux qui m'a dit mais en fait, tu peux. Mon amoureux, il est éditeur, mais il est surtout scénariste à la base de bande dessinée. Et il est devenu scénariste à 20 ans. Et c'est vraiment un truc, il a fait plus d'une centaine de bouquins. Enfin, c'est vraiment son univers. Et en fait, c'était le fait qu'il me lise et qu'il me dise mais bien sûr que oui, tu peux faire un livre, enfin. Et que ça soit même pas une question pour lui. Et Je pense, et en plus, ouais, le connaissant, il me disait pas ça parce que c'était mon amoureux, il me disait ça parce que c'est quelqu'un du métier et qu'il le sait. Et c'est ça qui a fait que je suis sortie de mes petits cahiers. Et c'était quelque chose que j'appelais de toutes mes forces depuis toujours, parce que mon moteur premier, c'est celui-là. Et en ce moment, j'en suis un peu plus éloignée, et c'est un vrai problème de dans ma vie, genre vraiment.
Pourquoi t'as eu besoin? Mais
ouais, le déclic, c'était ça. Et,
oui, tu peux faire un livre. Qu'est-ce qui te manquait avant? Qu'est-ce que ça a changé d'entendre ça?
Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que ce livre, c'est une BD, et que j'étais moins seule que si j'avais, si j'avais écrit un roman. Et ça, c'était... C'était plus facile pour moi, et c'était plus facile aussi parce qu'un scénario de BD... Alors en vrai, il est méga fat, mon scénar, tu le regardes dans mon ordi, t'hallucines sur la taille qu'il fait et tout ça, mais tu le construis par étapes, et du coup c'est beaucoup moins terrifiant que construire un roman, en se disant t'as une obligation de résultat, quoi. Et c'est un truc dont je voulais parler, ça, tout à l'heure, l'obligation de résultat. En fait, ce qui me pose problème et ce qui me bloque en ce moment sur l'écriture, alors que je pense que c'est ma passion première et que j'aimerais bien que ça soit mon métier aussi un jour, parce que je pense que la photo, ça pourra pas être mon métier toute ma vie, c'est que c'est difficile d'écrire et de perdre de vue l'obligation de résultat. Enfin, c'est difficile d'écrire en me disant j'écris parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai besoin, ce qui est le moteur premier, et de pas se dire oui, mais tout ce temps, toute cette énergie que j'y consacre, il faut que ça soit quelque chose, il faut que ça soit une œuvre. Il faut que ça soit quelque chose de publiable, il faut que ça soit quelque chose de bon, en fait, tout simplement. Et pour moi, la photo, ça a marché parce que j'ai commencé avec zéro enjeu et zéro prétention. Mais parce que j'avais le temps. Avec l'adolescence, il te donne ce temps-là aussi où t'es pas obligé tout de suite d'être dans une performance et un résultat, quoi. Et l'avantage d'écrire pour la BD, c'était aussi ce côté où la performance, elle dépend pas que de moi. Et à tous les stades de l'élaboration de la BD, enfin du scénario, j'avais donc David Chevel, l'éditeur, qui me disait « Là, tu te fourvoies. Là, c'est pas clair. Là, c'est vraiment bien. » Et j'avais la dessinatrice, Carole Morel, qui faisait la moitié du travail minimum. Enfin, on va pas quantifier, mais qui complétait l'œuvre et qui la rendait complète. Je sais pas comment dire autrement. Et c'est beaucoup moins flippant. Tu te dis, t'as un dessinateur qui te suit sur un projet, qui va y consacrer un an de sa vie et qui va aussi être responsable, en fait, de l'objet que ça donne. Et c'est pour ça, je pense que c'est un moyen d'appréhender l'écriture qui est beaucoup moins intimidant. Et c'est pour ça que j'y suis allée.
C'est très intéressant ce que t'as dit sur l'obligation de résultat. Je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai avec d'autres invités. Je voudrais qu'on fasse un détour par l'adolescente que tu étais.
J'ai spoilé déjà.
Alors, t'as déjà dit pas mal de trucs, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on faisait rapidement le portrait robot de toi, ce moment charnière que peut être l'adolescence, j'aimerais que tu choisisses déjà quel moment, parce que l'adolescence, ça va de 12 à 19 ans, c'est les teen years en
anglais. Ouais, ouais, je vois très bien.
Donc, si tu devais choisir un moment dans cette période, c'était quoi pour toi le moment charnière? Pourquoi c'était une charnière? Et, c'était qui Chloé à cette époque, tu vois? mais passe-partout, tu vois, le style vestimentaire, la musique que t'écoutais, enfin... Vraiment, je voudrais qu'on fasse un portrait robot de toi à quel âge, du coup?
À 15 ans.
À 15 ans.
15 ans, c'est l'entrée au lycée.
Ouais.
Ça va être, pour la première fois, un mec avec qui je pense que je vais rester toute ma vie, et avec qui ça a duré 5 mois, et qui m'a quitté en me disant « Désolée, j'ai pensé avec ma queue, mais t'aurais pas été vierge, je me serais barrée avant ».
Ah, un prince charmant, donc.
Ouais, non, mais ça a été un gros moment charnière et c'est ce moment où je suis arrivée aussi en internat en me disant ça y est, j'arrive à Nancy, je suis à la ville.
La ville.
Ouais, je suis en classe théâtre et je vais rencontrer des gens, je vais rencontrer des artistes. En fait, c'était vraiment ça. Je me disais, je vais rencontrer my people. Et pas tant que ça. Mais du coup, c'était vraiment un moment charnière parce que j'avais l'impression de mettre en route ma vie vraiment. Et puis l'internat, t'as ce côté aussi où t'es plus chez tes parents. Enfin. C'était beaucoup de choses à la fois, sachant qu'en plus, moi j'ai une maman qui m'a toujours fait beaucoup confiance et qui a toujours valorisé l'autonomie et tout ça. Et donc, elle me faisait très très confiance à base de « Ah, tu veux partir une semaine à Paris toute seule ? Bah ok. Et tiens, voilà une carte bleue qui tire sur mon compte pour si t'as un problème. » Donc c'était une période où vraiment j'avais l'impression... En fait, j'avais l'impression de démarrer ma vie d'adulte, presque. Ce qui, a posteriori, est totalement faux. Mais j'étais portée par vachement d'espoir. Et en même temps, j'étais quelqu'un d'hyper écorché vif. Et je ressentais tout avec une intensité, mais monstrueuse. Enfin, et je pense que c'est pour ça que tu vois, ma BD, L'Apocalypse selon Magda, ça parle de l'adolescence, etc. Je pense que j'en ai pas fait le tour parce qu'il y avait une telle richesse de ressentis. Enfin, tout était écorché vif, je sais pas comment dire autrement. Tout ce qui m'intéressait dans la vie, c'était l'art sous toutes ses formes. Donc je dessinais des espèces de trucs manga horribles.
Tu ressembles à quoi ?
J'avais des cheveux très longs, j'avais des cheveux à mi-cuisse. Mi-cuisse, meuf. Je fais 1m81. Je sais pas si tu vois ce que ça donne, mi-cuisse. C'était ouf. Et je cherchais mon style vestimentaire. Je cherchais à être prescriptrice de tendance, mais je me loupais très très fort. J'étais persuadée que tu peux empiler autant de vêtements que tu veux et que ça soit toujours classe. C'est faux. C'est absolument faux. Genre, tiens, un t-shirt à manches longues, plus une robe, plus un pantalon, plus des grosses chaussettes. Plus... Non. Non, il faut pas faire ça. Et je changeais tout le temps de tribu vestimentaire. En fait, je pense que si les Emo Kids, ça avait existé, c'était My People. Mais ça n'existait pas, j'étais un tout petit peu trop vieille. Et donc, parfois, j'étais vaguement gothique. Parfois, j'étais complètement babacool, parce qu'en plus, bah, j'étais en lycée théâtre. Donc, voilà.
Your people.
Ouais.
Your people.
Ouais. Qu'est-ce que je faisais d'autre ? J'avais des trucs vaguement manga aussi, le petit trip jupe plissée, cravate. Bref, c'était pas bien et je choisissais pas mon camp, quoi. Donc parfois tout ça se mélangeait, parfois c'était alterné, ça allait, mais parfois c'était mélangé. Et ça se passait pas bien. Puis j'avais une tendance à récupérer les fringues de ma grand-mère en me disant si, c'est joli, ma grand-mère qui fait 1m40. Et voilà, j'ai tenté beaucoup de choses et aucune d'entre elles n'était heureuse.
Qu'est-ce que j'aurais trouvé dans ta playlist à cette époque ?
Quasiment que des trucs de fumeur de joint. Je fumais pas de joint. J'étais, je pense, la seule meuf de France en lycée théâtre qui fumait pas de joint. Mais des trucs de fumeur de joint, genre La Rue qui est à nous, tout ça. Ouais. Mano Solo.
Mais alors calme-toi bien, car je fumais pas de joint non plus et j'écoutais ça, d'accord ?
Ok, et ben t'étais My People alors. Et sinon, beaucoup de trucs qui font chialer, beaucoup de chansons françaises anciennes, genre beaucoup de Barbara, pour qui j'ai toujours une passion. Si tu regardes derrière moi, il y a une photo d'époque de Barbara, un vinyle de Barbara.
Donc, effectivement, ouais. Que je n'ai pas reconnu car j'ai zéro culture musicale.
C'est pas grave. Mais Barbara, vraiment, Barbara, Brel, tout ça, vraiment en boucle.
C'était marqué dessus.
Avec une espèce de... C'était vraiment parce que j'aimais ça, mais aussi un peu pour montrer que j'étais une meuf cultivée, tu vois. La chanson française, les années d'il y a longtemps, c'était vraiment ça. Et sinon, beaucoup de Radiohead aussi. J'aimais bien ce qui fait chialer. J'aimais bien me faire chialer avec des chansons.
Alors cette Chloé de 15 ans, comment tu penses qu'elle te regarderait aujourd'hui quand elle regarde, si elle pouvait voir la personne que t'es devenue ? Est-ce que tu penses qu'elle te reconnaîtrait ? Oui, non, pourquoi ?
J'étais prête à répondre jusqu'à ce que... Ta dernière question, est-ce qu'elle te reconnaîtrait ? Je vais dire un truc qui va sonner hyper prétentieux, mais je vais essayer de développer après pour que ça n'ait pas l'air prétentieux. Je pense qu'elle hallucinerait en se disant « Putain, c'était la meilleure version possible, quoi. On n'aurait pas pu faire mieux. » Parce que j'étais persuadée que j'étais vouée à être malheureuse et que c'était quelque chose, ça faisait partie de mon ADN en fait. J'étais persuadée que moi j'étais une meuf qui aurait jamais droit au bonheur. Et en fait, je suis hyper heureuse. Enfin, tout n'est pas facile, hein, mais et j'ai toujours un petit terrain de meuf qui va pas bien, mais j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'aime sincèrement et que j'aime très fort. Et en fait, l'amour, ça prend une place énorme dans ma vie. Et à l'époque, ça prenait déjà une place énorme, sauf que j'étais persuadée que ça prendrait toujours une place énorme, mais complètement dissymétrique. C'est-à-dire, je pense que c'est l'amour de ma vie. Le mec me largue au bout de 5 mois en faisant « Ouais, bah ça va, et oh, c'est bon. Heureusement que t'étais vierge. » Donc, je pense que là-dessus... Et puis, donc sur la vie amoureuse et la vie au quotidien, je pense que ça serait une grosse surprise. Et beaucoup de joie de « Putain, c'était possible, quoi. » Et sur le métier aussi, je pense que... y aurait eu un gros enthousiasme de « Putain, on est photographe, sans déconner. C'est tellement la classe. » mais avec beaucoup de naïveté aussi, parce qu'en fait c'est pas que la classe. Genre par exemple hier je potassais les seuils de TVA et c'était pas un truc qui aurait fait rêver mon moi de 15 ans et ça ne fait pas rêver mon moi de 31 ans non plus du tout.
Pourquoi tu penses que c'est prétentieux de faire le constat que t'es devenue la meilleure version de toi-même, que tu projettes, enfin la meilleure version que ton toi-même aurait projeté à 15 ans? Pourquoi t'as associé ça à de la prétention?
Parce qu'il y a un côté ça y est, je suis arrivée. En fait je pense pas du tout que je suis arrivée et j'espère que je vais réussir à faire des trucs plus cool et que je vais m'améliorer en tant que personne, que... Enfin, tout ça. Il y a un petit côté content de soi qui me convient pas.
Pourquoi ?
Parce que si... Par exemple, tu vois une photo, c'est une question que je me pose beaucoup parce que ça fait 11 ans que c'est mon métier. Si j'évolue plus, si je progresse plus, j'arrête. L'immobilité et la satisfaction, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Et je trouve que c'est un truc dangereux, surtout dans un médium, là je parle de la photo en particulier, mais un médium qui bouge autant. Et moi je trouve que la vie n'a pas d'intérêt si tu cherches pas constamment à évoluer.
Je suis d'accord avec ça. Juste, j'apprends dans ma vie à distinguer le perfectionnement avec la charge émotionnelle que tu peux mettre dessus. En fait, je sais pas si c'est les bons termes, mais quelque chose entre l'exigence et le perfectionnement, tu vois. C'est-à-dire que je suis capable d'être exigeante envers moi-même. En revanche, j'ai renvoyé la prof qui, dans ma tête, me mettait à chaque fois des 2 sur 20 en dissert en me disant que j'étais pas au niveau, tu vois, pour reprendre le parallèle avec la prépa.
Ouais, c'est un truc que j'essaie d'apprendre à faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, avant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand j'envoyais un reportage à des clients, pas forcément des mariés, des clients en général, je me tordais toujours les mains en disant « Putain, j'espère que ça leur a plu, parce qu'à tel moment, mon cadrage, il n'est pas parfait, mais ce qu'ils peuvent pas savoir, c'est qu'il y avait un meuble sur ma droite et vraiment, je pouvais pas... » Et ça me rendait malade systématiquement tant que j'avais pas un mail qui me disait « C'est vraiment très bien. » Et si j'avais juste un mail qui me disait « C'est bon, on les a téléchargés, on s'occupe de ta facture », j'étais là « Merde. »
Ils ont pas aimé.
Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais peut-être que je pourrais leur dire qu'il y avait un meuble à ma droite. C'était horrible. Ma vie était horrible. Mais c'est récent hein, j'en sois plus là. Et maintenant, si je suis OK, je fais toujours de mon mieux, quoi qu'il arrive. Mais je fais toujours vraiment de mon mieux. Et si j'ai fait de mon mieux et que je trouve que j'ai pas merdé... La question se pose plus.
Qu'est-ce qui a changé ? Comment est-ce que t'as fait pour passer de l'un à l'autre ?
Une psychothérapie.
Mais si elle triche aussi.
Ah ouais, non mais oui. T'es pas la première à me poser des questions et que je sais pas répondre. Et... Non mais oui, c'est vraiment ça en fait. Par contre, c'est un truc actif. C'est-à-dire que je suis en permanence en train de dire à cette petite voix dans ma tête « Ferme ta gueule, car j'ai bien travaillé en fait. » Et voilà. Et je suis pas en train de... Je suis pas en train d'inventer un remède contre le cancer, en fait. Donc, s'il y a une fois où il y a un meuble à ma droite, eh ben, c'est pas grave, il y a pas des gens qui vont mourir du cancer à cause de ça.
C'est très bien dit. J'en profite pour teaser l'épisode 2 de Déminage, puisque ça va être sur cette petite voix qui nous parle mal à longueur de temps. Donc, je vous donne rendez-vous à celles et ceux qui nous écoutent lundi 9 décembre pour le deuxième épisode de Déminage, où on parlera de ça, effectivement.
Trop cool. Et je finis sur l'ado.
Vas-y.
Et juste, pense que l'ado, elle me dirait « Putain, mais t'écris plus, mais n'importe quoi. » Ma problématique de ma vie, en ce moment. Mais sinon, ça, je pense qu'elle serait contente. Parce que je t'ai beaucoup parlé de la place d'Internet et de la manière dont ça m'avait sauvée. Mais il y a un autre truc qui a marqué mon adolescence, c'est que donc j'étais sur beaucoup de forums, de sites communautaires, notamment autour de l'écriture et tout ça. Et c'est marrant hein, que je te parle autant d'écriture, alors qu'en fait, c'est pas mon métier. Mais bon, bref. Dans la saison 10 des impertinentes. Et en fait, il y a un truc assez chelou qui est que j'attirais beaucoup, j'attirais beaucoup de mecs plus âgés, de jeunes adultes avec qui je parlais énormément et ça flattait beaucoup mon ego et j'étais persuadée que c'est parce que j'étais tellement mûre et tellement différente et tellement artiste. Et aujourd'hui, moi, c'est un des trucs qui me fait grincer les dents quand je regarde mon adolescence. Il y avait beaucoup de... Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça me paraît important. Il y avait beaucoup de dangers que je percevais pas. Il m'est rien arrivé de grave pendant mon adolescence à ce sujet-là. Mais il y avait des questions peut-être d'emprise, dans une certaine mesure, de mecs de 25-30 ans que je fascinais, mais qui du coup exigeaient de moi une présence, une réponse, une relation. Et c'était hyper étrange, quoi. Et c'est vraiment un des gros trucs qui a marqué mon adolescence, c'est ce regard et cette exigence d'hommes plus âgés sur moi que je percevais pas comme malsaine parce qu'on m'avait appris à la percevoir comme flatteuse. Et ça a engendré un malaise qui a duré assez longtemps. Je sentais que quelque chose n'était pas aligné, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai mis... j'en parle parce que je pense qu'il y a peut-être... s'il y a des ados qui écoutent cette émission. Et en fait, un des trucs que j'ai mis très longtemps à comprendre et qui m'a libérée là-dessus, c'est que en fait, le désir que les autres ont de toi ou portent sur toi n'a rien à voir avec toi. Ça ne te concerne pas. C'est leur problème. Et ça vaut sur un niveau sexuel, ça vaut, mais ça vaut aussi sur ce genre de truc, quoi. Parce qu'en fait, des mecs relativement jeunes ou d'âge moyen fascinés par les jeunes filles, il y en a énormément. Et qui profitent de la naïveté qu'on peut avoir là-dessus ou du discours culturel ambiant qui est « Oui, mais regarde ces jeunes filles brillantes, dans le regard des hommes plus âgés qui les magnifient. » Enfin, truc très malsain et qui était très très présent pendant mon adolescence. Et c'est marrant parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est des mecs à qui je ferais peur.
Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et je crois que je sais pourquoi t'en parles, parce que je trouve que c'est une actualité omniprésente ces temps-ci.
Aussi.
Depuis MeToo. Mais je pense à Flavie Flamand, avec le photographe, là, tout le documentaire.
David Hamilton.
Oui, voilà. Je pense à toutes ces histoires-là, et je pense à l'autre abruti, là, avec quand c'est Greta Thunberg qui s'exprime à la tribune, c'est une enfant, faut pas qu'elle... Qu'est-ce qu'elle fait là, elle devrait être à l'école. Et quand c'est une enfant de 13 ans qui accuse David Polanski de...
Elle avait l'air d'une femme.
De viol, là, tout d'un coup, c'est une adulte et elle faisait plus que son âge. Enfin,
ouais.
Tout ce discours-là, je pense que tu l'as très bien résumé, et tu l'as fait sortir du contexte j'allais dire de célébrité, d'un milieu que de toute façon beaucoup de gens voient comme à part, avec ses règles et ses codes, etc. À tort, à mon avis, hein, mais bon. Et tu viens de le réancrer dans, bah, en fait, c'est la réalité de beaucoup de jeunes filles.
Ouais, et c'est un truc qu'on valorise vachement. En fait, c'est ça aussi. Là, j'y pensais quand on parlait. Moi, j'ai fait partie des meufs qui faisaient beaucoup plus que leur âge. C'est-à-dire qu'à 11 ans, j'avais toutes mes mensurations actuelles. Sachant que je fais 1m81, je le répète, et que je suis pas androgyne, quoi. Et en fait, c'est un truc qu'on valorise vachement chez les jeunes filles, de faire plus que leur âge, d'avoir un corps de femme, d'être relativement mûre, d'avoir un discours construit, de pas avoir peur des adultes. Et en fait, on le valorise, mais c'est aussi parfois pour s'en servir, quoi. Et moi, j'ai vachement cru à ce discours de valorisation quand j'étais ado, et j'avais un gros orgueil là-dessus, alors qu'en fait, alors ça aurait pu être beaucoup plus grave, il m'est rien arrivé de grave avec tous ces mecs, mais juste c'était malsain. Et je le savais pas parce que toute la société me disait le contraire.
Merci encore pour ce témoignage. Vraiment, je pense que je le sortirai pour que ça soit, encore plus entendu par des
gens. Quand tu dis le sortir, est-ce que tu vas prendre une voiture avec un mégaphone sur le toit et tu vas faire le tour de la ville?
Absolument.
Avec un gyrophare?
Yes.
Putain, cool.
Alors. Sans transition, car il n'y a pas encore de transition, je rappelle, c'est pas la première émission, donc ça va se roder au fur et à mesure, hein. Merci de votre patience et de votre exigence. Une troisième partie de cette interview, en fait, je voulais qu'on revienne un peu sur ce que j'appelle l'architecture de ta vie. Dans le futur, je compte laisser le choix à mes invités entre soit parler de leur zone de confort, soit parler du film de leur vie. En gros, c'est deux façons d'aborder, enfin deux angles différents pour aborder le même sujet, qui est que si je veux m'inspirer de toi, qu'est-ce que je peux prendre comme point de repère dans ta vie ou dans ton quotidien? Donc, j'ai un choix 1 qui est, si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur? Et j'ai un choix 2 qui est, si ta vie était un film, et donc je te pose quelques questions sur le casting, enfin, quelle serait la bande originale du film, qu'est-ce qui serait l'élément problématique, déclencheur de l'intrigue, etc., etc. Alors, comme on se connaît et je t'adore, je voudrais te proposer qu'on fasse les deux.
Okay.
Ça fera une interview qui sera fatalement beaucoup plus longue que celle que je ferai à l'avenir.
Ouais, mais comme je suis pas très bavarde et que je réponds pas pendant 25 minutes à chacune de tes questions, on est bien.
Mais ça nous permettrait de tester un petit peu les deux configurations, de voir en quoi elles se recoupent, en quoi elles sont différentes. Ça m'aidera pour la suite. Et comme tu as une voix très agréable, je suis sûre que personne ne m'en voudra.
Je peux la faire avec l'accent belge si tu veux, l'accent belgien.
Attention, si on commence à parler d'accent, l'accent lorrain, moi, va ressortir extrêmement vite. Ne me tente pas. Alors, je te propose qu'on commence par, si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur?
Alors déjà, le truc que je t'ai dit en faisant mes devoirs, c'est que je suis embêtée avec le concept de zone de confort. Enfin, pas de la manière dont tu l'utilises, mais je vois tellement de trucs, genre, sortez de votre zone de confort, et moi, je trouve que c'est bien de connaître sa zone de confort et de savoir y rester. Enfin, dans la vie, si on l'exploite bien, sa zone de confort, c'est largement suffisant, quoi.
Mais totalement. C'est pour ça que je pose cette question, en fait. Elle est construite autour de ça. C'est que ta zone de confort, c'est vraiment l'endroit dans lequel tu peux revenir en sécurité, quoi qu'il arrive. Alors, en sortir pour aller explorer de nouveaux horizons, tenter de nouvelles choses, etc., c'est super. Mais ça ne marche et ça n'est possible que si tu as cette zone de confort. Je reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure sur c'est facile de prendre des risques dans la vie quand tu as tes parents derrière qui peuvent te servir de filet de sécurité. Non, en fait, c'est pas plus facile. C'est moins risqué, c'est pas pareil. En fait, c'est-à-dire que tu n'encours pas le même risque en tentant quelque chose. Effectivement, si tu te plantes, eh ben, t'as un filet de sécurité que d'autres n'ont pas, ok. Mais le mécanisme de tenter quelque chose, d'essayer, il n'est pas corrélé de façon linéaire au risque que tu prends.
Non, pas de façon linéaire.
Tu vois ce que je veux dire ?
Je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure. Ouais.
Ça rentre en ligne de compte, évidemment. C'est pour ça que je pose la question de... Je voudrais qu'on inspecte ta zone de confort pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, vers quoi tu te retranches, à quoi tu te raccroches quand tu as besoin de retrouver cette sécurité. Ça m'intéresse de le savoir pour que d'autres puissent éventuellement s'en inspirer.
Alors moi, le truc chelou, et tu l'as presque sous les yeux, c'est que la pièce qui représenterait ma zone de confort, c'est mon bureau. Mais ouais, bon. Quand je disais que je taffe vraiment beaucoup. Mais enfin, en tout cas, c'est bien que ta question soit sur une pièce, parce que de toute façon, moi, ça aurait été une pièce, ça aurait pas été à l'extérieur. Et en fait, je suis jamais aussi heureuse que quand je bouge pas, mais que ça va vite dans ma tête. Et j'ai choisi le bureau parce que c'est une pièce où, en général, j'ai une boisson chaude, j'ai une bouillotte, j'ai un plaid, j'ai des gros chaussons fourrés. Et en fait, en gros, le corps n'interfère plus. Et je suis vachement libre parce que du coup, tout ce qui est dans ma tête peut faire sa vie et sortir et qu'il n'y a pas de limite parce que j'ai pas froid, notamment. Je suis team froid de ouf. Qu'est-ce que je peux en dire aussi ? C'est aussi une pièce où il y a mon ordinateur. Et ce que ça implique, c'est que donc, bah, c'est là que je travaille. Hein. De toute façon, c'est là que je travaille mes photos. C'est là que je travaille, mon écriture quand j'ai le temps. Et ça veut aussi dire qu'il y a Internet. Et que c'est une ouverture sur le monde, mais hyper safe, en fait. Enfin, hyper safe, non, en vrai, faut pas lire les commentaires et tout ça. Mais c'est un moyen de communication avec des gens que t'aimes. Comment dire ça ? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver.
Oui, c'est un lien aux autres, et en même temps c'est un lien avec une mise à distance aussi. Donc,
oui, et pour moi c'est un lien choisi. C'est un lien choisi en fait, mais ça fait aussi écho à mon adolescence où effectivement les relations contingentes des gens que je rencontrais au collège et tout, c'était pas formidable, au collège, au lycée. Et par contre les gens que je rencontrais sur internet, c'est ceux que j'allais chercher, c'est ceux que je choisissais en fait pour être mes amis. Et c'est des gens que j'ai toujours dans ma vie, quoi. Donc je pense que ça représente ça, l'idée d'avoir un ordinateur pour communiquer.
Il y a deux éléments que je trouve très intéressants dans ta réponse, plus intéressants, enfin, qui se détachent, je trouve, c'est que, de un, t'as choisi, enfin, ta zone de confort, elle est intimement liée au travail, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur, bah, en fait, je bosse, c'est comme ça que j'ai réussi à devenir photographe. Donc ça, je trouve ça peu surprenant que, du coup, ta zone de confort soit centrée là-dessus. Et t'as répondu à la question avec effectivement une pièce de ta maison, ce qui est pas forcément la moelle image que j'avais quand j'ai construit la question. C'était plutôt, en fait, si c'était une pièce à l'intérieur de ta maison là, une pièce, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Et ça pouvait être n'importe, enfin, donc ça peut être une pièce neutre, juste c'est quoi la couleur des murs, c'est quoi la déco, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc c'est pour ça que j'ai des questions derrière qui sont un peu est-ce que je trouve des principes de vie dedans, qu'est-ce que tu mets dans ta zone de confort, qui sont des choses vers lesquelles tu... Parce que par exemple, tu vois, le travail paye, ça c'est peut-être quelque chose que tu peux avoir dans ta zone de confort parce que c'est quelque chose, un précepte auquel tu crois et qui t'a servi, et tu reviens à ça quand tu doutes. Tu
vois ce que mais je veux dire ? C'est à double tranchant parce qu'en fait, quand je parle de travail depuis le début, j'ai l'air d'être complètement stacanoviste, mais par exemple, moi j'étais une ado qui foutait rien au lycée. Les gens énervants qui ont des bonnes notes et qui foutent rien.
Oui.
Et qui énervent tout le monde en disant j'ai raté trop ce contrôle, arrête, me parle plus. Et tout le monde est là, non, tu l'as pas raté, t'es là, mais si, trop. Et en fait, non. Mais c'est le travail passion en fait, c'est pas le même, hein. c'est pas le travail où je fais ma compta, où je refais mon site et tout, ça m'emmerde, et ça je procrastine comme tout le monde parce qu'il y a beaucoup de séries sur Netflix. Voilà. Et non, c'est vraiment le travail passion, et ça c'est quand même hyper important comme notion sur le côté tu t'arrêtes jamais parce qu'en fait c'est plus fort que toi quoi qu'il arrive. Et en fait, ouais, au début, j'ai commencé à y penser comme une pièce un petit peu abstraite. Et en fait, je revenais à des trucs qui sont mon bureau, donc une espèce de cabane. Mon bureau est un peu une cabane, si tu regardes, en mezzanine, avec un toit incliné, un Velux pour entendre la pluie tomber, des plaids, il y a des plaids. Enfin, c'était déjà assez proche de ça, quoi. Et une pièce relativement blanche avec des murs pour afficher des post-it avec des idées d'histoire, de déroulement d'histoire, ce que j'ai commencé à faire dans mon bureau, d'ailleurs. Mais c'est... Physiquement, c'est à peu près ça, en tout cas. Et en termes de... S'il y aurait des tatamis par terre, ça serait peut-être un peu plus cosy encore. Et en termes de valeur et tout... Putain, j'ai plein de trucs à dire, c'est compliqué à résumer.
Qu'est-ce qui te rassure ?
Je vais faire la réponse la plus cucu de l'univers, mais l'amour.
Pourquoi ?
Bah parce que j'ai l'impression que rien ne peut se passer vraiment mal si t'as une personne que t'aimes et qui t'aime genre vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez rare d'avoir un vrai amour très fort, très sécur. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement rare, Mais je peux pas l'exclure de ma réponse parce qu'en fait, bah moi, depuis que je l'ai, ça a arrangé vraiment beaucoup de choses et tous les aspects de ma vie, en fait. Ça a tout entraîné avec. Ensuite, je pense que tout le monde n'est pas aussi dépendant à ça. Mais moi, c'est clairement le premier truc qui me rassure, quoi.
Encore une fois, c'est intéressant que tu te dises que ça va être une réponse cucu, alors que, enfin, je pense que je mets dans la liste des choses qui me rassurent dans la vie, je trouve que l'amour, c'est le truc le moins rassurant au monde parce que c'est le truc le plus précaire. Je veux dire, c'est quand même, on maîtrise pas, on comprend pas comment ça fonctionne ces trucs-là. Enfin, on se fait de la promesse de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais bon, les statistiques disent que ça se sépare quand même avant la mort assez souvent pour les gens. Donc,
ah, mais moi, je te garantis pas que mon couple va durer. Toute la vie, j'en sais rien. Mais de fait, ce que ça me procure dans ma vie, c'est ce qu'il y a de plus rassurant, de plus agréable au monde. Et autant le fait de ressentir de l'amour que d'en recevoir, mais presque plus d'en ressentir, en fait. Et c'est pour ça, quand je te parle de mon adolescence et de mes relations dissymétriques, c'était déjà ça aussi. Le fait d'aimer était un truc qui me nourrissait tellement et que j'aimais tellement. Tu vois, tout donner à quelqu'un et l'adorer, quoi. C'était un truc qui était vraiment important pour moi, sauf qu'en fait, bah là, je découvre ce que ça donne quand c'est partagé et durable et sécure. Et c'est ouf. Et c'est vraiment ma base, quoi.
Je veux quand même te poser une des questions qui était...
Mais parce que je sais plus du tout ce que j'ai écrit dans mes devoirs.
Quel est ta go-to comfort food? Faudrait que je formule cette question en français, excusez-moi. Je vais y arriver. En gros, toujours dans l'idée de dans ta zone de confort, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as un rapport à l'alimentation particulier qui te procure comme ça un espace de sécurité, de confort dans lequel tu reviens en cas de doute?
Je vais faire une réponse longue que tu pourras couper. J'ai un rapport compliqué à la bouffe parce que je suis une ancienne grosse et que j'ai maigri d'une façon pas du tout saine. Je pense que j'ai pas eu de troubles alimentaires, mais que j'ai vraiment flirté avec et que plus jamais je retenterai un truc comme ça. Mais en gros... J'étais grosse et j'ai perdu 30 kilos en 6 mois, sans demander à aucun médecin, et juste en comptant toutes mes calories et en réduisant à un nombre vraiment ridicule. Et du coup, le rapport à la nourriture, il a été compliqué pendant très 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 longtemps. Et donc, je bouffe pas pour me rassurer, parce qu'au contraire, ça peut trigger autre chose, et même si j'ai pas eu de TCA... Je pense que j'ai des choses à pas provoquer et que j'ai eu la chance d'être passée entre les gouttes et que qu'il faudrait pas non plus aller chercher la merde quand même. Mais par contre, je t'ai mis en réponse, je crois que ma comfort food c'était la cuisine chinoise.
Absolument.
Déjà parce que c'est hyper bon et hyper varié, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas que du poulet au caramel et des nems. D'ailleurs, les nems c'est pas chinois. Et le poulet au caramel, peut-être pas non plus, je sais
pas.
C'est
quelle origine, Nam? C'est
vietnamien, je crois. Je suis pas sûre, je suis pas sûre à 100%. Mais donc bref, j'ai mis ça parce que je suis à moitié chinoise et que c'est quelque chose d'hyper important pour moi d'être à moitié chinoise. Enfin, c'est une culture que je ressens hyper fort, alors qu'en fait, j'en maîtrise pas beaucoup de codes parce que ma mère est née en France, tout ça. Mais ma mère m'a rien transmis de cette culture parce qu'elle l'a rejetée en bloc pour des raisons politiques, et je peux comprendre. Mais par contre, moi, quand j'étais petite, j'allais chez ma mamie et mon papy, qui sont chinois, et qui vivent en France, et qui sont très intégrés et tout, mais c'était mon lien à cette culture-là, c'était une safe place absolue de bienveillance quand la maison, elle n'était pas toujours bienveillante. Et on mangeait du canard laqué maison, des pâtes maison, et tout ça. Donc ma comfort food, c'est ça, quoi. C'est la nourriture de ma grand-mère et la nourriture chinoise.
Bah merci beaucoup. On va passer au film de ta vie, du coup. Tu veux bien?
Oui.
Ok. Si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale?
Alors, ça serait un peu les trucs de mon adolescence. Ça serait des trucs très mélancoliques, très mélodieux, mais un peu torturés. Et donc, il y aurait du Barbara, mais obligé. Parce que je ne peux pas vivre sans du Barbara. Donc, ouais, de la chanson française un petit peu vintage. Et je t'ai mis du Shigeru Umebayashi. Je crois que c'est ça son
Absolument.
Nom, j'espère que je ne me trompe pas. C'est un compositeur de musique de film qui a notamment fait la BO de mon film préféré, qui est 2046, de Wong Kar-wai. Et c'est, voilà, c'est asiatique, donc ça m'intéresse. Et c'est souvent très très mélodieux et très mélancolique, ce qu'il fait. Il a fait aussi la BO du Secret des poignards volants, où il y a une chanson a cappella. Je te ferai écouter ça tout à l'heure, c'est trop beau.
Okay.
Donc il y aurait beaucoup de ça. Et de temps en temps, parce qu'en fait, là j'ai l'air d'être juste calme et mélancolique, mais en fait j'aime bien dire des conneries et hurler en karaoké, donc il y aurait du Queen de temps en temps pour les meilleurs moments.
Valeurs sûres. Si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue ?
J'ai pas eu une enfance extrêmement marrante. Ah, j'ai un peu la chiale. En gros, j'ai... Alors, c'est... maman, si tu écoutes, c'est pas toi dont je parle, tout va bien. Bon, j'ai un peu eu une tiger mom chinoise. Elle commence à découvrir que c'est un peu une tiger mom. Donc, c'est les mamans chinoises très exigeantes où il faut être parfaite et où il y a rien qui doit pas être parfait, sinon ça gâche tout. Donc, j'ai grandi dans pas mal d'exigences, mais ça va. Enfin, j'en ai fait quelque chose qui me convient. Mais j'ai grandi avec un père qui avait l'air de trouver que j'étais toujours de trop et que j'étais toujours dans le chemin. Et en gros, j'ai grandi avec la sensation que j'avais pas de place du tout dans la vie et que ça aurait été mieux que je sois pas là. Bon, par contre, j'avais très envie d'être là. Donc, clairement, ça n'a pas remis en question le fait d'être là. Mais ça a été douloureux et j'ai toujours pas fini de me débarrasser de l'impression que j'ai pas le droit d'être là et qu'il n'y a pas de place pour moi. Et c'est très chiant. C'est très, très chiant. Et surtout, c'est quelque chose qui contamine beaucoup de choses dans la vie, en fait. Et si on est sur ce film-là de ma vie, ta question d'après, c'est qui est le personnage qui vient me sauver ?
Le personnage qui débarque juste au bon moment pour te prêter main forte.
Eh ben, c'est mon beau-père, c'est le mari de ma mère, qui du coup est arrivé dans... Je l'ai rencontré pour la première fois... Ok, je te raconte ça, tu couperas si tu veux. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'avais 3 ou 4 ans. Il faisait de l'alpinisme avec ma mère. Et moi, je jouais en bas d'un rocher d'escalade avec mes Barbies. Et il y a une guêpe qui arrivait. Enfin, une abeille, une guêpe, je ne sais pas. Et qui menaçait de me piquer, et j'étais terrifiée. Et il a débarqué, il ressemblait à une espèce de yéti pas coiffé, sale. Et moi, j'étais en train de hurler, et il a écrasé la guêpe dans ses mains en faisant bah, « C'est rien, ça, c'est vrai, ça, c'est bon. » Voilà, ça, c'est ma rencontre avec mon beau-père. Et toute ma vie avec mon beau-père a été comme ça. C'est une personne qui a choisi d'être mon père et de me donner tout l'amour que j'avais pas eu. Et donc, il s'est mis avec ma mère quand j'avais 11 ans, 10-11 ans. Et c'est vraiment quelqu'un... qui a choisi de me donner de l'amour sans compter jamais et d'être que dans la bienveillance, qui m'a appris qu'à la maison on pouvait rigoler en fait et que rien n'était jamais grave dans le fond. Donc c'est complètement mon sauveur.
Alors la question suivante, c'est qui est le méchant de l'histoire ? Je précise que c'est pas forcément, ça peut ne pas être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une force. En gros, l'idée de la question, c'est ton némésis dans la vie, quelle est la personne ou la force ou l'événement, j'en sais rien, qui est à contre-courant de ton histoire.
Alors ça, c'est un truc qui revient régulièrement. Pour moi, alors j'ai peur que ça paraisse psychophobe, mais ça l'est pas. C'est le fait de savoir qu'on a une maladie mentale et de pas le soigner. Et de refuser absolument tout soin, mais par orgueil. Parce qu'en fait, je comprends que quelqu'un qui est en dépression aille pas faire une thérapie parce que ça demande de l'énergie. Ça, je le comprends tout à fait. Mais j'ai eu plusieurs personnes dans ma vie qui étaient des gens qui se savaient malades, qui voyaient que ça détruisait leur entourage, et qui, par orgueil, se sont dit « Moi, je vais pas me soigner. Tant pis pour les autres. » Et moi, le grand méchant de mon histoire, au moins à 3 reprises, c'est ça. Et c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est stigmatiser des gens qui sont malades, mais en fait, c'est pas leur maladie que je stigmatise parce que c'est une maladie. Mais je stigmatise quand c'est l'orgueil qui empêche de soigner et qui fait qu'on peut se permettre de faire du mal à son entourage.
Alors, tu stigmatises pas parce qu'en fait, tu généralises pas. Tu parles de.
Non, je parle de cas bien précis.
Voilà,
mais...
de cas bien précis. En fait, c'est important de le préciser parce que stigmatiser, ce serait sans connaître les gens, sans connaître ce que j'appelle leurs circonstances, c'est-à-dire tout ce qui font que ces gens sont ces gens, venir dire je ne comprends pas ce choix ou je juge ce choix. Ce qui n'est pas du tout ce que tu fais parce que tu parles de personnes bien précises que tu connais et de comment ces personnes influent sur ta vie. Donc, tu es bien sûr légitime à avoir un avis, voire même un jugement, puisque ça te concerne directement, et que tu n'es pas en train de généraliser le cas de ces personnes à celui de personnes que tu ne connaîtrais pas.
C'est vrai. Mais puis c'est vraiment sur un truc bien précis qui est quand c'est l'orgueil et la prétention qui bloquent, et je trouve que ce n'est pas acceptable, en fait.
Oui, je te rejoins un peu là-dessus. C'est comme si tu étais malade d'une maladie contagieuse, par exemple. Donc, tu mets ton entourage. Mais de toute façon, c'est les antivax, tu vois. Moi, c'est bon. Mon enfant, il va faire ses défenses naturelles et ça se passera très bien.
Et puis, je sais mieux.
Voilà. Et puis,
je sais mieux que toi.
Le principe de la vaccination, c'est de protéger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés.
Ouais. Ah, putain, mais l'analogie est hyper forte.
je viens de mettre un pavé dans la mare, s'il y a des antivax qui m'écoutent, eh ben, je ne vous aime pas.
Et sinon, l'autre angle que j'avais pris, est-ce que je te le développe ou pas?
Alors attends, il y a une dernière question sur cette...
Ah, okay.
La dernière question de si ta fille est un film, c'est après quoi tu cours? C'est quoi ton but? Quand est-ce que... Alors, je ne parle pas de quand est-ce que le générique se déclenche, mais tu sais, tous les héros ou les héroïnes ont un moteur, quelque chose, une mission qui leur donne un sens, hein, qui donne un sens au film.
Ouais, je vois bien.
Dans ta vie, c'est quoi?
C'est être à ma place. Identifier que j'ai une place. Mais c'est fou parce que sur cette anecdote, quand j'étais petite... Alors, ça faisait marrer les institutrices, ça faisait marrer mes parents, mais en fait, à la lumière de tout ça, c'est pas si marrant. Tous les matins, à l'école maternelle, j'arrivais, je faisais le tour de... On avait chacun notre place. Je faisais le tour de toute la classe, je passais 4 fois devant ma chaise et je finissais par pleurer en disant « j'ai pas de place ».
Alors que t'avais une place.
Bah oui, j'avais la même tous les jours, en fait. Et moi, ma problématique, c'est ça. Moi, ça, le générique commence quand j'ai trouvé ma place et que je sais que c'est ma place. Et en fait, c'est... Mais c'est un truc qui me guide dans tout, en fait. Dans, par exemple, si j'accepte de prendre une commande ou non avec des clients, si je vais aller faire tel projet, si je vais aller à telle soirée, il faut que je sente qu'il y a quelque chose qui s'aligne. Et j'ai mis très longtemps à croire cet instinct, mais en fait, il marche bien. Et j'essaye, dans la mesure du possible, de faire les choses que quand je sens que ça s'aligne et que c'est là que je dois être.
Je sais pas si t'avais déjà lu ou vu Mathilda.
Non.
De Roald Dahl ?
Non, mais on a beaucoup parlé, mais j'ai jamais vu.
Franchement, la façon dont tu racontes le film de ta vie, à travers mes questions, là, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Mathilda.
Ouais. C'est drôle.
Elle est en trop, ses parents n'en veulent pas, machin, mais elle est super surdouée, elle a des pouvoirs magiques. Mais en fait, toi, ce que tu fais en photo et l'écriture, moi, je considère que c'est des pouvoirs magiques dans le sens où c'est pas distribué de façon... Égal dans toute
ouais,
la société.
Je passe à travers les murs aussi et puis je vole parfois, mais que de quelques mètres.
Tu vois des trucs que les autres ne voient pas, tu racontes des histoires que les autres ne ressentent pas. Enfin, c'est en fait, en tout cas, je pense que tu peux regarder ce film ou lire le livre. Enfin, mais c'est une histoire qui moi aussi m'a beaucoup aidée quand j'étais petite, parce que elle est très cruelle, et très dure pour un livre pour enfants. Hein.
Ouais.
C'est le méchant est vraiment enfin les méchants sont vraiment méchants, il y a vraiment de la violence dans l'histoire, mais je la trouve très inspirante, en fait, l'histoire de cette petite fille qui ne se laisse pas faire, vraiment.
Ouais,
elle se laisse pas
faire. Ça m'intéresse, j'irai voir ça.
Quatrième partie, au pied du mur. Donc l'idée, c'est qu'on a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que il y a dans ta carrière de photographe une épreuve qui t'a particulièrement marquée?
Non, honnêtement, il n'y a rien qui me vient. C'est plutôt des choses ponctuelles, tu vois, quand ça arrive. Ça arrive que tu aies des clients difficiles, ça arrive que tu aies des situations difficiles, mais en fait...
Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'as jamais eu de situation qui sortait du lot, ou c'est parce que c'est ta propre réaction face aux difficultés fait qu'il n'y a rien qui devient une montagne insurmontable?
Si, avec moi, tout devient une montagne insurmontable. C'est plutôt ça, je pense. Je suis facilement très très négative. Et c'est un truc que j'essaie de surveiller, mais c'est difficile de pas le faire. Je suis facilement genre... oui, ils ont dit qu'il y avait pas assez de photos de tel truc, mais en fait je pouvais pas. Et puis en fait, du coup, ils m'appelleront plus jamais. Et puis du coup, et puis à la fin, on meurt, en fait. Il y a à peu près zéro truc entre « Est-ce que t'auras un tout petit peu plus de photos de cette salle-là » et « Ça y est, je vais mourir ». Il y a quasiment pas d'étape. C'est l'enfer. Donc non, franchement, je trouve que ça se passe bien, quoi. Donc j'ai eu des galères de vie, mais en fait c'est pareil, elles sont multiples. Et j'aurais du mal à te déterminer un truc, quoi. Enfin, je trouve que mon adolescence a été pas terrible et que j'ai eu des ex qui étaient vraiment des connards.
Hashtag vie de meuf.
Ouais, mais il y a des moments où je me dis, tu sais, ça fait partie du parcours initiatique de chaque meuf d'avoir un pervers narcissique, mais vrai, cliniquement, quoi. Mais ils sont nombreux, quoi.
Apparemment, ils sont nombreux. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour t'en sortir au mieux?
Qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que je sais que j'ai écrit deux trucs assez proches. Écoute-toi, fais-toi confiance. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'instinct, en fait. L'instinct, comme c'est un truc... C'est pas ce qu'on t'apprend en tant que première de classe, justement. Et c'est un truc que j'ai mis hyper longtemps à croire. Et justement parce que j'ai été élevée un peu à la dure, où on me disait « arrête de t'écouter ». Et j'ai mis très longtemps à penser que mes ressentis étaient légitimes. Et en fait, mes ressentis sont un putain de guide de ouf, quoi.
Donc t'es en train de spoiler la dernière question qui était le conseil dont t'aurais vraiment pu te passer en pareille circonstance, c'est-à-dire dans l'adversité.
J'ai dit quoi
je... Ne sois pas si sensible.
Ne sois pas si sensible. Bah oui, ça va ensemble. C'est ça que je te disais quand okay. je te disais j'ai deux trucs qui vont vachement ensemble. Ne sois pas si sensible, c'est ça aussi quoi. Et en fait, j'ai toujours été écorchée vive et franchement c'est chiant. C'est vraiment relou. Et en même temps, bah c'est à double tranchant quoi. T'es sensible pour les trucs positifs aussi. Et par exemple, je sais que j'ai des clients, ça m'est arrivé de... Bah, je vais parler du mariage parce que je rencontre beaucoup de gens dans le cadre du mariage. Et ça m'est arrivé de sortir d'un rendez-vous en me disant « je le sens pas, je sais pas pourquoi, mais je le sens bof et je devrais pas y aller. » Mais j'y vais quand même parce que j'ai la voix dans ma tête qui dit « dis donc, hey, c'est ton métier, tu vas aller gagner de l'argent et puis tu vas être sérieuse et tout ça. » Bah ça a été la merde à chaque fois en fait. Alors que je savais pas du tout, j'avais aucune raison objective de pas le sentir. Et à côté de ça, j'ai d'autres copines photographes de mariage et... qui écoutent pas cette voix-là et qui reviennent avec des anecdotes horribles. Et en fait, tu gagnes vachement de temps au moment où tu te dis « je vais écouter cette voix-là ». Et tant pis si une fois de temps en temps, je me plante et je passe à côté d'un truc cool. Si je m'évite tous les trucs pas cool, c'est quand même vachement bien. Et tu fais pas... En plus, c'est pas les métiers artistiques, tu les fais pas pour être dans la contrainte permanente d'être à des endroits où tu veux pas être, quoi.
Je voudrais rebondir là-dessus parce que cette voix-là dont tu parles... Si on l'écoute aussi souvent, c'est pas parce que c'est la voix la plus... Enfin, c'est... Si on l'écoute aussi souvent, c'est parce que c'est la voix de la sécurité aussi. Tu vois, c'est difficile de dire non à un client, c'est difficile de refuser, enfin, c'est prendre un risque. Donc, ma question, c'est, par rapport à toutes celles qui nous écoutent, là, est-ce que t'as déjà perdu quelque chose ? Enfin, qu'est-ce que ça t'a coûté, en fait, d'écouter cette voix ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est, tu prends un risque en disant non, en t'écoutant toi quand tu le sens pas. Fondamentalement, le prix que t'as dû payer pour pouvoir t'écouter, c'est quoi ?
Bah, y a des industries dans lesquelles je sais que je bosserai jamais.
Parce que je bosse... C'est grave ?
Bah, financièrement, il y a des gens qui pourraient trouver ça grave, mais tu vois, bah, par exemple, je sais que... Mais là, il y a aussi la question de l'alignement avec tes principes, en fait. L'instinct et les principes, ils marchent droit dans la main. Moi, je refuse de taffer pour, par exemple, une couve de magazine qui va... avoir quelque part en mention les régimes de l'été. Bah ouais, mais je me coupe d'une clientèle, en fait. Je refuse de faire des portraits où les gens vont pas se sentir bien en sortant. Je me coupe de beaucoup de choses aussi, notamment d'une grosse partie de la presse. Je refuse d'encourager des images du corps que je trouve dangereuses. Surtout en étant une meuf qui a perdu 30 kilos en 6 mois, en fait. Je sais à quel point c'est dangereux, je sais à quel point t'as peur de t'évanouir dans la rue et tu te détestes tout le long, quoi. Bah, je vais pas travailler pour la mode. Et ça va avec l'instinct, en fait, aussi. Parce que la petite voix, elle me dirait, bah non, vas-y, en fait, t'as potentiellement un potentiel de croissance là-dessus, dans ta carrière, et tout ça. Et en fait, j'y vais pas. Et ceux que je perçois comme des clients avec qui... c'est pas forcément des clients toxiques, mais c'est des gens qui sont pas alignés pour moi. Bah, ouais, je sais plus quelle était la fin de ma phrase, mais grosso modo, ça, c'est la même chose que les principes, en fait. C'est... tu tires vers quelque chose de plus cohérent avec lequel tu te sens aligné et c'est la paix d'esprit.
T'as pas l'impression que ça t'ait coûté quoi que ce soit auquel t'aurais pas renoncé de toute façon ? Parce que ça te coûte des marchés auxquels t'avais pas l'intention de prétendre quoi qu'il arrive.
Ouais, voilà, c'est plutôt des questions de balance en fait. Qu'est-ce qui me coûte plus ? Être pas aligné avec ce en quoi je crois ou pas gagner cet argent-là ? Bah clairement, je préfère être aligné avec ce en quoi je crois, quoi.
D'accord. Je vais choisir une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu.
Oui, je suis inflexible et intransigeante.
C'est un reproche qu'on t'a fait ? Ou une critique
ouais,
que t'as reçu ?
Bah en fait, je suis hyper dure, quoi, dans le fond.
Ah bon ?
Dans la vraie vie, je suis sympa, je crois, à peu près. Enfin, ça dépend vraiment avec qui. Mais tu vois, quand je te dis ce truc inflexible, intransigeante, ça va avec le fait d'être alignée avec ce en quoi tu crois et tout. Moi, par exemple, quelqu'un me dit un truc antiféministe, c'est fini. Sauf s'il y a une rédemption un jour de son côté, mais c'est fini. Je suis méga intransigeante avec ce qui me plaît pas ou ce que je trouve injuste. Et si j'ai décidé de quelque chose, c'est impossible de me faire ployer. Et du coup, c'est chiant parce que parfois, c'est sur des choses assez anodines. Mais en fait, je pense que ça a à voir avec l'enfance que je t'ai racontée. Si je ploie, je meurs. Donc, je ne ploie pas. Et j'ai eu plein de moments difficiles où j'étais la dernière des merdes et une ado qui pleure. Mais en fait, j'ai la sensation d'être à peu près incassable. Mais ça a un prix. Du coup, je suis hyper chiante. Parfois. Sur des trucs.
Dernière question de cette partie. La première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur, c'était quoi et c'était quand ? Alors je vais spoiler parce que tu m'as répondu des trucs, mais tu as surtout dit Bon, sinon, j'ai fondé le club antiraciste de mon école primaire quand j'étais en CE1 aussi, comme si c'était anecdotique. Alors que, pardon, mais donc t'étais en école primaire dans les Vosges.
Les Vosges. On était deux racisés dans l'école. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que, tu vois, en habitant à Paris, je suis à moitié chinoise, la plupart des gens, ils le captent pas. Dans les Vosges, je suis à moitié chinoise, c'est « fais gaffe, tu vas bouffer mon chien, quoi ».
C'est... Je suis désolée, je voulais pas rire à ça, mais... C'est...
Non, non, mais... C'est pas grave. Mais ouais, le racisme, je l'ai expérimenté hyper tôt. Et en plus, avec les trucs, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand t'es une meuf asiatique, en plus, t'as cette intersectionnalité de t'es une esclave sexuelle, t'es... Enfin... Et les préjugés racistes, je les ai eus hyper tôt. Et il y avait un noir dans mon école. Et du coup, on était tous les deux, quoi.
En CE1, vous avez décidé de fonder un club antiraciste ?
Ouais. Ouais, moi j'ai décidé, je sais pas, je trouvais que le racisme c'était vraiment pas bien.
Oui, bah oui, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi
et
nul.
Et du coup, bah, j'avais écrit des chansons, j'avais décoré des masques avec des cartes de la Terre et en disant et si on se donnait tous la main. Et j'avais eu une super idée de nom de groupe, j'avais appelé ça SOS Racisme. et ouais, j'étais à bloc et en fait ça servait à rien, hein. Je disais juste le racisme c'est pas bien. Et puis mon copain noir il disait mais grave. Et puis voilà.
J'ai une question très importante à te poser à propos de tout ça, c'est que, donc, on l'a dit, je viens d'environ la même région, et nous, dans nos écoles, en Moselle, il y avait la tradition des rois mages. Donc, on prend les gamins par groupe de trois, il y en a un, c'est Gaspard, il est blanc, mais il y en a un qu'on fait une tête au charbon parce qu'il est noir.
Génial.
Et souvent, le troisième, eh ben, on le faisait en jaune avec les yeux bridés. Ouais. Parce que Melchior, ça sonne un peu asiatique. Donc, en fait, on avait les trois rois mages, c'était le blanc, le noir et l'asiatique. T'avais pas ça dans les
non.
mages? T'avais
non.
pas ça dans ton école?
Non, non, nous, on avait juste Saint-Nicolas et le Père-Feutre. Ah, c'est ouf!
Les années 90, hein!
Ah là là!
Ouais, ouais, ouais. Oh, il y a des photos, hein. Si un jour quelqu'un veut détruire ma carrière, il y a des photos, hein.
T'étais qui, toi?
J'ai dû déjà être le noir, c'est sûr.
Ouh.
Parce qu'on l'a fait, enfin, tous les ans, tu le faisais pour la nouvelle année.
Hein. On faisait pas ça du tout.
Mais je pense, ouais. Je sais pas si ils le font encore, ce serait intéressant.
Mais pour te, enfin tu vois une autre anecdote sur je suis désolée hein, je fais du Vosgien shaming mais en fait c'est parce que je trouve que sur certaines questions il y a vraiment du retard et c'est pas du parisianisme de ma part parce que je pense pas ça de tas de régions de France en fait notamment je vais tout le temps en Bretagne et je pense pas ça du fin fond de la Bretagne mais par exemple donc ma mère est médecin et elle est dermato et elle était toute seule pour un bassin sanitaire de 100 000 personnes un truc comme ça enfin monstrueux. C'est vraiment... et elle a sauvé des vies parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres dermatos pour détecter des cancers de la peau, pour les opérer et tout. Elle a eu un rôle très important dans cette communauté-là et elle a bossé... elle est en retraite depuis pas longtemps, mais elle bossait 12 heures par jour minimum, 6 jours sur 7. Enfin, monstrueux. Quand elle est partie à la retraite, les gens lui ont dit « Ah, vous allez ouvrir un restaurant chinois !» Tu vois, ça dit vraiment quelque chose de cette mentalité-là, quoi. Je veux dire, elle a sauvé des vies toute sa vie. Mais en fait, sa vraie place, c'est ouvrir un restaurant chinois.
Ouais. La route est longue. Hein.
Ah, la route est très, très... Alors elle, ça la fait marrer parce qu'elle est plus... Justement, elle n'est pas intransigeante comme moi, mais moi, je trouve ça inacceptable, en fait. Et je trouve que ça dit énormément sur le regard des gens, sur les racisés et tout ça. Donc j'ai une... Ouais, j'ai une petite graine de social justice warrior qui vient de très très loin, je pense.
Je te remercie encore pour ce témoignage. C'est... un sujet que je compte aborder également dans les épisodes de Déminage autour des stéréotypes, la façon dont on perçoit le monde. Je ne vais pas spoiler maintenant, mais j'ai eu un cours de sciences sociales une fois qui a changé ma vie, parce que c'était sur la complexité du monde et l'usage qu'on avait des stéréotypes. Mm-hmm. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi des gens que par ailleurs je pouvais trouver intelligents, cultivés, enfin capables en fait, d'appréhender la complexité du monde, restaient quand même victimes, complices, je ne sais pas, de ce genre de stéréotypes. Donc voilà, on y reviendra.
J'ai hâte.
Voilà, je tease, hein, je t'utilise honteusement pour
mais
faire ma promo.
Tout ce que tu veux, Clémence.
Ok, c'est super. On arrive sur la dernière partie. La dernière partie de l'interview, je ne te l'ai pas transmise parce que j'ai appelé ça pile ou face. En gros, je vais te poser une série de questions. En général, en règle générale dans la vie, tu es plutôt l'un ou l'autre. Pourquoi ?
Et je vais te faire des réponses de 37 minutes.
Le but étant que ce ne soit pas des réponses de 37
ouais,
minutes.
J'ai bien compris.
Voilà. Et tu as le droit, par contre, de striker la question. C'est-à-dire que si c'était ni l'un ni l'autre, bah, tu me dis bah, non, ni l'un ni l'autre. Et pourquoi ? A priori...
Il faut que je justifie mes réponses...
Devant un jury.
Ah putain, la vache !
Après, on délibère.
Tu ne m'avais pas donné les devoirs à faire, vous n'aviez pas dit qu'il y avait contrôle.
Juste parce que tu es serre d'aigle, donc je prends mes précautions. Il est évident qu'a priori, chaque personne n'est ni l'un ou l'autre, on est tous quelque part sur le spectre. Merci de choisir ton camp, camarade, et de ne pas me faire le coup de « Ah mais, je suis au milieu !» Oui, tout le monde. Alright, est-ce que t'es prête ?
Oui.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste ?
Pessimiste.
Pourquoi ?
Parce qu'à la fin, on meurt. Il y a toujours une étape et ensuite, on est mort.
En général, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue ?
Anxieuse.
En général, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir ?
S'il faut vraiment choisir, je dirais nostalgique du passé, mais je suis pas complètement nostalgique parce que ça va tellement bien dans ma vie aujourd'hui que... Et il y a eu tellement de merde dans le passé qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien.
Ok, mais t'es pas drivée par je ne sais pas de quoi demain sera fait et c'est trop cool de pas savoir. T'es plus...
Non.
J'apprécie le chemin que j'ai parcouru, d'où je viens.
Ouais.
C'est bien d'avoir fait tout ça.
Et puis, il y a aussi... Si je pense à l'avenir, j'ai envie de le contrôler, j'ai envie de le prévoir. J'ai pas envie de me jeter dans le vide, j'aime pas trop ça.
En général, dans la vie, t'es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude ?
Moments de solitude, de ouf.
Tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter de demain ?
Profiter de la vie, alors que je t'ai dit que je bossais vachement, mais en fait, moi ça va avec profiter de la vie. Et je bosserais pas vachement si c'était pas une manière de profiter de la vie pour moi.
T'es plutôt confiante ou prudente ?
Prudente. Non, je sais pas. Non, je strike.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce que...
Ah oui, il faut que je dise pourquoi.
Ah bah oui.
Parce que j'aime bien prévoir les choses et anticiper beaucoup et être... Enfin, beaucoup réfléchir aux choses en amont. Donc j'y vais jamais. Je vais jamais faire des trucs la fleur au fusil. Quand j'ai peur de quelque chose, mais que je sens que c'est la chose à faire, je me donne un coup de pied au cul. Donc je suis pas que dans la prudence et la retenue, quoi.
Ok, je pense que c'est une question que je vais remodeler. En fait, la base c'était, mais je voulais pas la poser comme ça, t'es plutôt intuitive ou rationnelle, selon
les
archétypes de Jung, mais justement c'est un peu trop, tu réponds en fonction de l'étiquette que tu sais avoir, versus je cherche une formulation qui masque l'idée derrière. Donc... sur la base de ce qu'on vient de se dire depuis une heure et demie, t'es plutôt intuitive, mais effectivement, t'es plus au milieu, c'est pas irrationnel.
T'as pas un truc à trouver avec la spontanéité, peut-être ? Plutôt spontanée ou calcul... pas calculatrice parce que c'est hyper connoté, mais dans l'idée, c'est ça en fait.
Mais ça, c'est tout.
Planificatrice.
Alors, tu vois, il y en a une qui arrive après, c'est bien aussi. Ah. Mais c'est toute la difficulté de cet exercice, c'est de forcément, moi en faisant les questions, le premier jet, ça correspond à moi. Donc, il y a un qualificatif qui est positif, en tout cas voilà, et l'autre qui est plus ou moins mais rien que anxieuse ou détendue, j'ai dû le reformuler 4 fois parce que j'avais mis angoissée par exemple, c'était...
Angoissée, moi ça m'allait.
Bref, j'étais assez dans... Ouais, ça trahissait beaucoup de choses.
Ouais.
Alors, il en reste 2. T'es plutôt organisée ou bordélique ?
Bordel organisée. Mais ça dépend dans quoi. En fait, mon taf m'a vraiment appris à être organisée et maintenant je suis... Désolée de dire, une machine de guerre de l'organisation. Mais spontanément, je suis plutôt dans le bordel. Mais un bordel qui se comprend lui-même, que personne ne comprend, mais qui lui se comprend.
Et enfin, dernière question, en règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique ?
Méga perfectionniste.
J'aurais raté mon interview si t'avais répondu l'autre. J'aurais fait, je suis passée à côté d'un truc là.
Ouais, tu te souviens du temps, on se connaît pas vraiment en fait.
On l'a refait. Ouais. Chloé Volmerlo, merci beaucoup d'avoir été ma première invitée.
Clémence Bodoc, je vous en prie, ce fut un plaisir.
Merci. Pour tous les gens qui auraient envie de te suivre, de découvrir ton travail, où est-ce que je les envoie ?
Soit sur mon site, chloévolmerlo.net, Volmer avec 2 L, mais sinon tu noteras peut-être l'adresse quelque part parce que j'ai un nom compliqué.
Dans les notes du podcast.
Incroyable. Donc ça, c'est mon portfolio un peu stable, où il n'y a justement pas que des mariages, etc. Et sinon, je me fais violence pour être hyper active sur Instagram. Enfin, pas hyper active, mais pour faire des posts vraiment construits, vraiment réguliers.
Assidu sur Instagram.
Assidu, c'était le mot que
je
cherchais.
Tu as une très belle ligne éditoriale sur Instagram, je le disais tout à l'heure, mais je le redis.
Merci beaucoup.
Donc, j'invite également... Parce que tu en as 2 tes comptes Instagram.
Non, j'en ai qu'un. Chloé Volmerlo, tout attaché. Mais j'y travaille fort. J'y travaille vraiment fort et ça me prend beaucoup de temps et... Et là, c'est vraiment mon truc de bon élève qui dit « Il faut faire l'Instagram, alors fais l'Instagram. » Donc, vous pouvez venir sur mon Instagram, car
Il est beau, il est très beau. Et les histoires d'amour sont très belles.
Et il y a des trucs nouveaux quasiment tous les jours. Et il n'y a pas que du mariage.
C'est vrai. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour la confiance.
Merci, Clémence.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.